Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Gmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue au cours duquel nous allons parler de la relecture des textes relatifs aux élections, établissement de la liste électorale, enregistrement des électeurs et rôle des différents acteurs. Qu'est-ce qui est fait à ce stade pour organiser les futures élections? Nos invités sont Zoumananti Doumbia du parti RPM, Salia Kariba Traoré de la COSEM Société Civile. Je suis Mouhamadou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Je rappelle que nous avons tenté d'inviter les autorités, à savoir le ministère de l'administration territoriale, mais ces tentatives sont restées vaines. La première question à vous, Monsieur Zoumananti Doumbia, par rapport aux futures élections qui doivent être organisées d'ici mars 2022, à savoir cette élection, dont un dans deux mois, c'est-à-dire le référendum. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait jusqu'à ce stade?
Merci bien, Monsieur Touré. Je salue les auditeurs et les téléspectateurs. Et merci encore à Studio Tamani de nous avoir appelés sur ce plateau. Vous conviendrez avec moi que absolument rien n'est fait, en tout cas à l'heure actuelle, pour l'organisation et la préparation des élections. Et alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalamaïga, lors de sa présentation du programme d'action gouvernementale devant le CNT, a affirmé que le chronogramme établi au mois d'avril tient toujours lieu. Et quand vous prenez ce chronogramme-là, aujourd'hui devrait trouver que le fichier électoral a été audité.
Oui, parce que l'audit était prévu du 1er
voilà,
au 15 août.
Voilà, l'audit était prévu du 1er au 15 août. Et aussi, la révision exceptionnelle des listes était prévue pour le mois de juillet. Mais malheureusement, encore une fois, absolument rien n'est fait. Et vous savez que la loi électorale a des délais incompressibles. Et toute chose qui nous fait dire aujourd'hui que les scrutins prévus pour le mois d'octobre, l'opération référendaire, bien entendu, ne pourra pas avoir lieu.
Vous avez cité deux choses qui figurent sur ce calendrier, ce chronogramme électoral. Alors, si ces choses n'ont pas été faites, selon vous, tout de suite, est-ce qu'on sait concrètement qu'est-ce qui est maintenu dans ce chronogramme et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Malheureusement, on ne saurait le dire à ce stade-là, parce que nous pensons, comme nous l'avons toujours dit, qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune visibilité dans l'action du gouvernement en ce qui concerne les élections. Tout porte à croire que le dernier souci, en tout cas, de nos gouvernants aujourd'hui, c'est bien les élections. Alors que nous sommes sous l'égide de la Constitution du 25 février 1992, qui instaure un régime démocratique dont le baromètre, ce sont les élections. Et donc, sans élections, je ne pense pas qu'on puisse avoir le baromètre pour pouvoir évaluer les degrés de notre démocratie. Et à ce fait, nous avons dit, depuis le mois de mai, qu'il faille relire la loi électorale, aller en tout cas à beaucoup plus de transparence dans la loi électorale, renforcer la CENI pour qu'on puisse commencer en tout cas l'organisation des élections. Parce que, vous savez, l'organisation des élections, ce n'est pas le jour des élections. Il y a beaucoup de choses en amont. Et si ces choses-là ne sont pas faites à temps, ça voudrait dire que le processus même est d'ores et déjà un échec.
Justement, la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, rappelle que la CEDEAO demande à ses pays membres que les règles du jeu soient claires pour tout le monde 6 mois avant les élections. Nous allons écouter Dr Ibrahima Sango.
Dans tous les cas, le protocole de la CEDEAO a dit que 6 mois avant les élections, il faut que les règles du jeu soient claires pour tout le monde par rapport au processus électoral. Si la transition doit finir en mars, il faut que 6 mois avant d'abord, il y ait une loi électorale connue de tout le monde et qui spécifie qui va faire quoi. Il reste que 7 mois si on déduit ce mois d'août. Donc ça veut dire qu'on doit aller à des réformes nécessaires à minima et puis des élections à minima.
Si ce chronogramme est maintenu, le chronogramme du gouvernement, est-ce que comme Dr Ibrahima Sango vient de le dire, le protocole de la CEDEAO va être violé, M. Traoré?
Effectivement, ce protocole sera violé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à l'instar de mon aîné M. Doumbia, je tiens à saluer les auditeurs et les téléspectateurs, et également remercier Studio Tamani pour cette opportunité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, dans le chronogramme qui avait été établi par le gouvernement de Mokhtar Wane, effectivement, il était prévu de faire beaucoup d'actions avant d'arriver au mois d'août. Parce que si vous voyez ce chronogramme, vous allez voir qu'il était prévu même de mettre en place un collège. Et au-delà de ça également, il était prévu, encore une fois, d'avoir un projet déjà de constitution. Donc ce projet de constitution devait être disponible au mois de mai pour pouvoir passer au Conseil des ministres. Ensuite, ensuite amener au niveau du Conseil national de transition, donc pour pouvoir auditer le fichier. Alors nous voyons que malheureusement, ce chronogramme ne tient plus parce qu'il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas été encore mises en place de ce fait à travers le coup de force que nous avons vécu il y a quelques mois. Alors la COSEM a eu à...
Est-ce que vous voulez dire que c'est le coup de force qui a empêché, qui a ralenti le processus?
Bon, je ne dirais pas en tant que tel c'est le coup de force qui l'a ralenti. Parce que comme vous le voyez, quand le Premier ministre actuel dit que le chronogramme est toujours en vigueur, alors qu'il y a des actions qui avaient déjà été entreprises mais qui n'ont pas encore abouti, donc je pense que, même si ce n'était pas
Quelles sont celles qui avaient été entreprises?
Voilà, donc les actions entreprises, c'était déjà la mise en œuvre, la mise en place déjà du chronogramme. Donc la mise à disposition du chronogramme déjà, parce qu'au moins, en ce temps, on savait clairement qu'on avait un chronogramme établi avec des dates bien précises, même si sa mise en œuvre allait être problématique. Parce que nous avons eu à le rappeler également le 15 avril, quand ils l'ont publié. Donc nous avons dit qu'il y a déjà le maintien du dispositif actuel qui était là pour l'organisation de ces élections, alors que la majeure partie de la classe politique, de la société civile, se penchait pour la mise en place d'un organe unique ou à défaut une CENI reconstituée. Mais nous voyons que c'était toujours le même dispositif qui était mis en place. Et il y avait un autre problème qui était là, c'est que dans le chronogramme, ça ne ressortait pas le processus de réforme établi de façon claire et précise. Donc on ne savait pas quand est-ce que ce projet allait être exclusif, c'est-à-dire au mois de mai, c'est vrai, le projet devait être mis à disposition, mais est-ce que ce projet de constitution allait être inclusif comme on le demande tant? Est-ce que ça allait être le cas? Donc il y a beaucoup d'interrogations qui se posaient à ce niveau. Donc raison pour laquelle je disais que même ce chronogramme posait d'énormes défis, d'énormes difficultés, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes au mois d'août, comme mon confrère Sango l'a dit. Donc si nous essayons maintenant de partir par une quelconque réforme, nous allons également violer le protocole de la CEDEAO qui stipule que pour qu'il puisse y avoir des réformes, il faut 6 mois minimum pour pouvoir mener à bien ces réformes. Mais qu'à cela ne tienne...
Faire ces réformes 6 mois avant les élections.
Avant les élections, voilà.
Est-ce que cela veut dire en clair que le référendum qui est prévu sur le chronogramme le 31 octobre 2021 ne peut avoir lieu à cette date?
À l'heure actuelle, c'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, au fait, c'est tout un processus. Nous sommes au mois d'août, nous n'avons pas un projet de constitution pour l'instant. Alors quand est-ce que nous allons avoir ce projet de constitution? Ce projet de constitution sera élaboré de quelle manière? Est-ce qu'il y aura l'inclusivité de toutes les couches du Mali, de toutes les couches maliennes?
Est-ce que Zoumananti Doumbia a des réponses à ces questions?
Mais bien sûr que oui. Je pense que il faut dire le protocole additionnel parle de large consensus. Ça voudrait dire que si on doit changer ou modifier les règles du jeu, il faut un large consensus. Et le large consensus aujourd'hui va vers, en tout cas, le renforcement du système actuel. C'est-à-dire aller vers beaucoup plus de transparence dans la loi électorale, relire la loi électorale, mais renforcer la transparence, notamment la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, et renforcer la CENI, et ainsi de suite. Mais vous conviendrez avec moi que le référendum n'aura pas lieu. Pourquoi?
Vous en êtes sûr?
Pourquoi? J'en suis sûr parce que, à entendre le Premier ministre Choguel Kokalamaïga, il dit que les assises de la refondation vont être déterminantes dans la révision de la Constitution. Donc ce qu'il voudrait dire...
Et ces assises sont annoncées d'ici fin septembre.
Fin décembre, quand on prend le chronogramme, en tout cas dans le PAG, c'est que les activités commencent au mois de juin et finissent au mois de décembre.
Quel juin?
Mais le mois de juin passé, voilà, c'est là où il y a l'incohérence totale dans le programme d'action gouvernementale présenté par le Premier ministre.
C'est lui-même qui a été adopté par
Mais le Conseil national de transition.
N'ont-ils pas vu ces incohérences ?
Mais je pense qu'il y a certains qui l'ont rappelé. Mais bon, d'autres, peut-être que en fait, ils ont fait sciemment, ils ont mis en avant le discours de présentation beaucoup plus que le programme réel.
Êtes-vous en train de dire qu'ils n'ont pas pris connaissance du contenu de ce programme, qu'ils se sont concentrés sur ce que le Premier ministre disait ?
Je pense que s'il y avait eu une lecture minutieuse du programme d'action gouvernementale, on se rendrait compte des différentes incohérences. Parce que déjà, dans le programme d'action gouvernementale, c'est qu'il n'y a pas un chronogramme clair et précis des élections, de l'organisation des élections. C'est à la question des membres du CNT, quant au chronogramme clair, que le Premier ministre a répondu que le chronogramme établi, en tout cas publié au mois d'avril, en tout cas reste en vigueur. Et malheureusement, en tout cas, ce que lui dit et ce qui est écrit dans, et ce qui est énoncé dans ce chronogramme-là sont carrément en porte-à-faux. Parce que même quand il prend l'organe unique, qu'il défend tant, mais alors que c'est la conclusion du dialogue national inclusif, qu'il rejette, par moment, quand ça l'arrange, et par moment, quand ça l'arrange, il s'enorgueille. Mais ce chronogramme-là, prévu pour la mise en place de l'organe unique même, va jusqu'au mois de décembre. Mais comment est-ce qu'on peut mettre... Ça, c'est sans compter les deux mois passés. Quand on fait la soustraction des deux mois passés, ça voudrait dire que pour la mise en place de cet organe unique, il faut aller au mois de février. Donc comment est-ce que on peut mettre un organe qui va organiser des élections ou des opérations référendaires au mois d'octobre ou au mois de décembre.
Donc cet organe unique est prévu d'être opérationnel en février 2022
si on fait
organiser des élections dont celles
sont prévues en 2021. Il dit décembre, mais en aucun temps que, en fait, il y a deux mois de passé. Parce que dans le chronogramme que lui-même il a donné, les travaux devraient commencer au mois de juin. Et à l'heure actuelle, absolument rien n'est fait. Sauf si il y a du fétichisme là-dessus. Mais en ce que je sache, je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, relire ou modifier la loi électorale sans les acteurs politiques.
Alors, à ce stade, est-ce que vous, quand vous leur demandez, ils vous donnent des réponses, la société civile, la COSEM notamment, quand vous demandez aux autorités pourquoi, selon vous, rien n'est fait, qu'est-ce qui est prévu concrètement, est-ce qu'ils vous donnent une réponse ?
Bon, à l'heure actuelle, c'est que les acteurs de la société civile, notamment les observateurs nationaux, sont associés aux ateliers de réflexion, aux rencontres.
Organisées par
les autorités. La dernière en date, si j'ai bonne mémoire, c'était l'atelier de réflexion, où on l'a fait avec M. Ndoumbia. Donc on était...
C'était au cours de ce mois
Le mois précédent. Le mois précédent, c'était...
C'était au mois de juin.
Au mois de juin. Au mois de juin, voilà, donc au CICB, donc où le ministère de l'administration territoriale a organisé un atelier de réflexion pour voir la mise en œuvre, pour réfléchir sur la mise en œuvre de l'organe unique. Donc à la suite de ces deux jours d'atelier, donc il y a un document qui est sorti où les participants, sans pour autant occulter, étaient favorables. Pour la majeure partie était favorable pour la mise en place soit d'une CENI reconstituée, ou bien intégrer, créer l'organe unique dans la loi électorale, et maintenant pour sa mise en œuvre, donc permettre aux acteurs qui vont venir après, donc pour pouvoir disséminer, voilà, donc pouvoir le mettre en œuvre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes associés. Nous faisons également des propositions, donc ces propositions sont partagées à tous les niveaux. Maintenant, la question, c'est de savoir maintenant, est-ce que ces propositions seront prises en compte ou pas ?
Vous dites que rien n'est fait, mais vous dites que vous êtes associé. Vous êtes associé à quoi concrètement si
Nous sommes associés à des, comme je l'ai dit, nous sommes associés à des ateliers de réflexion, nous sommes associés à des débats, s'il y en a, donc pour pouvoir réfléchir ou faire des propositions. Je pense que depuis que nous avons commencé de 2018 jusqu'à maintenant, nous ne faisons que cela. Donc la COSEM s'attelle à cela et également beaucoup d'organisations de la société civile également font des propositions nécessaires, idoines pour pouvoir accompagner ces processus.
Mais si à ce stade, selon vous, ces réflexions-là, les conclusions qui sont issues d'elles ne sont pas prises en compte, à quoi servent ces réflexions, justement ? Quel est le but ?
Bon, honnêtement parlant, je ne sais pas où est-ce que ça bloque, parce qu'il faut savoir à des moments donnés également que c'est des jeux politiques que moi je ne maîtrise pas, parce que je ne suis pas politicien, mais à des moments donnés, nous essayons de faire des plaidoyers, des actions de plaidoyer, nous essayons de comprendre également pourquoi ces choses ne marchent pas. Mais honnêtement parlant, moi personnellement, cela n'engage que moi. Je ne sais pas où se trouve le blocage.
On va demander à Zoumanati Doumbia, qui est politicien. Est-ce que le Malien lambda aujourd'hui est confronté à un jeu politique des autorités maliennes par rapport à l'organisation de ces élections?
Je suis homme politique, je ne suis pas politicien. nous pensons qu'il y a peut-être, que les gens m'en excusent, un entêtement un peu du gouvernement actuel. Parce que nous avons montré par A plus B qu'il n'était pas possible, en tout cas, de mettre un organe unique aujourd'hui, que cet organe puisse, en tout cas, faire les élections à date. Nous ne sommes pas contre la création de l'organe unique. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la proposition, nous avions dit qu'il faut créer l'organe unique dans la loi. Donc, pour obliger, en tout cas, les gouvernants qui viendront après les élections de pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, cet organe unique. Mais malheureusement, je pense qu'on est venu avec une idée. Il faut forcément faire prospérer cette idée-là.
On est venu avec une idée.
Bon, en fait, il y a des gens qui ont cru, qui oublient que, en fait, ce ne sont pas par des élections qui sont arrivées, que c'est par des circonstances exceptionnelles qui sont là, et que leur baromètre ou bien leur instrument de travail doit être le consensus.
Est-ce que vous parlez d'Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga?
Non, mais Assimi Goïta n'est pas dans l'opérationnel. Je pense que c'est le gouvernement qui, aujourd'hui, qui détermine et conduit la politique de la nation. Et c'est ce gouvernement-là qui semble ne pas écouter. Peut-être qu'ils ont d'autres agendas. Nous pensons...
Mais c'est quand même Assimi Goïta, le président de la République, chef de l'État.
Oui, mais bien sûr que oui. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des gens qui conçoivent et font des propositions à Assimi Goïta. Et en dernier lieu, c'est lui qui doit trancher. Nous pensons aujourd'hui qu'il est plus que jamais nécessaire que le président de la transition sorte de son silence. Que ce silence-là est ahurissant. Ce silence-là ne met pas les gens, en tout cas, ne les met pas beaucoup plus, comment dirais-je, dans la sécurité. Il serait bon quand même qu'ils puissent donner une bonne ligne. Aujourd'hui, qu'ils puissent trancher définitivement, voilà, on va avec l'organe unique. Et on s'y met, mais nous sommes convaincus que ce qui a prévalu, parce que nous craignons ce qui a prévalu.
Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord trancher sur quelles sont les élections qui vont avoir lieu? Est-ce que toutes
mais
ces
nous
élections...
Mais nous avons, quand il y a eu le chronogramme en avril déjà, nous avions dit que c'était trop ambitieux. C'était trop ambitieux et qu'aujourd'hui, il faille privilégier deux élections majeures. Les deux élections majeures sont lesquelles?
On va revenir sur ça tout à l'heure. On écoute juste le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, qui était à Tombouctou la semaine dernière.
Alors, le calendrier, je pense que le Premier ministre a été très clair. Le calendrier n'a pas changé. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour respecter tous ses engagements, y compris le chronogramme des élections qui a été publié en avril 2021. Je pense qu'il ne faudrait pas voir le calendrier, vous savez, comme étant une loi. Un calendrier, c'est des estimations, c'est des prévisions. Et s'il y a des orientations à prendre, et le moment venu, je pense que les plus hautes autorités décideront de ces orientations-là. Mais pour le moment, le calendrier demeure toujours. En tout cas, il n'y a pas de calendrier bis. Le calendrier que nous avons, il est toujours d'actualité.
Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga au micro de notre correspondant Tombouctou, Seyni Faïa. Monsieur Traoré, qu'est-ce que le ministre de l'administration a voulu dire en estimant que le calendrier n'est pas une loi et que quand il faut apporter des modifications, le moment venu, ça se fera? Qu'est-ce qu'il a voulu dire?
Je pense que c'est clair, c'est du français facile. Il a dit que les autorités sont toujours avec le calendrier, comme le Premier ministre l'a dit, le chef du gouvernement. Donc le calendrier également, donc, c'est quelque chose, c'est des étapes d'action. Donc ces étapes d'action, selon ma compréhension, n'ont pas totalement changé. C'est vrai qu'il y a des dates qui ont été franchies, qui ont été définies. Maintenant, quitte à eux de nous dire maintenant clairement quelles sont les réorientations que nous devons, à quoi nous devons nous attendre. Parce qu'il serait vraiment important, comme M. Doumbia l'a dit, pour pouvoir mener en termes ses actions, mettre en œuvre par exemple soit ses élections ou bien...
Mais quand le ministre fait cette déclaration à 2 mois de l'élection, du référendum notamment prévu sur le chronogramme, est-ce qu'il y a un message caché derrière ?
Bon, ça je ne saurais le dire s'il y a un message caché ou pas. En tout cas, ce qui est sûr quand même, le chronogramme qui est sorti le 15 avril, donc comme je le disais tantôt, donc nous donner des informations claires là-dessus.
Monsieur Doumbia, quelle lecture faites-vous de ce message du ministre ?
Non, mais en réalité, ça veut dire seulement que le gouvernement patauge. Quand vous prenez le décret qui détermine les attributions des différents départements, c'est assez clair que l'organisation des élections relève du ministère de l'administration territoriale. Mais quand vous prenez le programme d'action gouvernementale présenté par le Premier ministre devant le CNT, en fait, la mise en œuvre de l'organe unique et tout le processus il relève du ministère de la Refondation. Donc, à ce moment-là, il y a une cacophonie. Je comprends pourquoi. Je peux comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez appelé le ministère de l'administration territoriale. Ils n'ont pas voulu. Parce que, en fait, il n'est pas clairement établi qui fait quoi. Parce que si dans le décret, c'est vrai que c'est des attributions du ministère de l'administration territoriale, mais dans le programme d'action gouvernementale, en fait, il y a une bonne partie de ce processus-là qui est logée au niveau du ministère de la Refondation et même au niveau du ministère délégué auprès du Premier ministre. Parce que le ministère délégué auprès du Premier ministre, il a dit que ce ministère-là va déterminer en fait ce que le COS faisait, ce que le comité d'orientation stratégique faisait, c'est-à-dire voir les réformes nécessaires en fonction de la durée de la transition. Donc, dans ce cacophonie-là, vous conviendrez avec moi que le ministre est obligé d'être réservé. Dans la mesure où le Premier ministre a dit qu'il s'en tient au calendrier publié au mois d'avril, mais le ministre de l'administration territoriale ne saurait dire autre chose. Mais en réalité, il sait qu'en face, aucune organisation n'est faite, parce que lui-même, il ne sait pas sur quel pied danser. Parce que si l'organe unique doit effectivement organiser les élections, ça voudrait dire que l'administration n'a pas de rôle majeur à jouer, même si je lis dans le PAG du Premier ministre qu'il y a une bonne partie encore des activités qui restent dévolues au ministère de l'administration territoriale. Donc ce qui me fait dire, je ne sais même pas, est-ce que réellement ce qu'il a produit c'est un organe unique ou bien c'est quoi ? En réalité, je ne m'y retrouve pas. Parce que l'organe unique suppose que l'organe unique a son administration propre. Et d'ailleurs, les administrateurs civils l'ont dit. Ils ont dit que, bon, leurs syndicats ont levé le lièvre en disant qu'ils sont très contents et qu'ils demandent à tous leurs militants, en tout cas, de ne pas s'y mettre dans l'organisation des élections. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une équation aujourd'hui à résoudre. Mais peut-être que la résolution de cette équation-là ne plaît pas aux autorités qui veulent s'éterniser un peu au pouvoir. Parce que c'est ce que nous pouvons dire in fine.
Est-ce que ça veut dire que vous estimez que le gouvernement envisage de ne pas partir en mars 2022 ?
Mais tout compte à croire, parce qu'absolument rien n'est fait qui puisse présager des élections à être organisées au mois de mars. Et plus loin que ça, le Premier ministre dit qu'il va organiser des assises souveraines, en oubliant qu'on est sous le joug de la Constitution du 25 février. Et il dit... Bon, maintenant, ces assises, les décisions de ces assises vont s'imposer à la transition. Nous comprenons un peu le message, parce qu'une fois, le Premier ministre a invité les partis politiques au CICB pour essayer de parler du bilan de la transition et de sa vision. Et là-bas, ça a été transformé en un meeting du M5. Et le Premier ministre, même ce jour-là, s'est comporté en M5. Il a oublié qu'il est le Premier ministre de tout le Mali. Parce que quand certains intervenaient, et qui n'était pas du même avis que lui, on te demandait ton parti a combien de conseillers, à combien d'élus, et ceci, cela. Mais par contre, il y a d'autres qui sont intervenus, qui n'ont même pas de parti fixe, mais qui ont intervenu, on ne sait pas à quel titre ils sont venus. Il y a d'autres qui ont intervenu, qui n'avaient même pas un seul conseiller. Mais il n'a jamais demandé à ceux-ci, vous aviez combien, et vous venez au nom de qui ? Donc,
on demande
en disant que ces assises,
à Traoré,
les recommandations vont s'imposer,
à Traoré,
ça voudrait dire que quand les assises vont dire que bon,
merci,
il y aura
Doumbia.
Prorogation de la transition, donc on va dire que ça va s'imposer à la transition.
Merci. Monsieur Traoré, est-ce que vous partagez cet avis de Monsieur Doumbia par rapport au fait que le gouvernement envisagerait de ne pas quitter le pouvoir à la fin de la transition, mars 2022 ?
Je suis là en tant qu'observateur.
Oui, mais voilà, là, dans vos observations, qu'est-ce voilà, que vous voyez?
Dans nos observations, encore une fois, ce serait vraiment difficile quand on a un calendrier et qu'on n'arrive pas vraiment à mettre en œuvre cela. Donc nous pensons que ce qui est opportun maintenant, c'est que le gouvernement actuel puisse maintenant réorganiser ce calendrier pour pouvoir donner une vue d'ensemble de ce qu'ils attendent de nous et de ce que nous attendons d'eux. Parce que ce qui est dommage, c'est que, comme on a l'habitude de le dire, une transition, au fait, c'est une opportunité pour les réformes. Parce que nous n'aurons personne qui va concourir pour un quelconque poste. Donc c'est une opportunité pour le pays de pouvoir réformer de façon systématique tous les maux que nous avons eu à connaître. Mais si nous voyons jusqu'à présent que ce calendrier comporte des failles, donc il est vraiment important, étant donné que le programme d'action gouvernementale a été mis en place et a été adopté par le Conseil national de la transition, il serait important pour nous maintenant que ce calendrier puisse vraiment clairement définir quelles sont les autres actions, les actions antérieures qui sont passées, qui n'ont pas encore été réalisées, comment nous pourrons les mettre en place.
Mais supposons que qu'on se limite aux élections présidentielles et législatives qui seront couplées et qui doivent se tenir selon le chronogramme du gouvernement le 27 février 2022. D'aujourd'hui jusqu'au 27 février 2022, ça fait exactement 6 mois et quelques jours, puisque à partir du 27 août, ça fera exactement 6 mois. Est-ce que c'est possible de tenir ces élections sans violer même le protocole de la CEDEAO?
Monsieur Doumbia l'a rappelé, pour ne pas pouvoir violer ce protocole, il faut un large consensus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir ce large consensus? Nous sommes entre nous maliens. Qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir pour les 6 mois restants et ne pas parler entre nous?
N'est-ce pas ce que vous faites lors de vos différentes réflexions?
Exactement. Pourquoi ne pas s'asseoir?
Mais si vous vous asseyez déjà lors de ces différentes réflexions, vous proposez encore pourquoi ne pas s'asseoir pour discuter de cela. Alors de quoi est-ce que vous discutez? Qu'est-ce qui manque dans les discussions?
Bon, je dirais ce qui manque dans les discussions, c'est la sincérité.
Qui n'est pas sincère?
Bon, je dirais tous les acteurs.
Et
je
vous y compris.
Je peux dire nous également.
Alors, est-ce que les partis politiques sont sincères?
Bien sûr que oui, dans la mesure où nous sommes initiateurs du dialogue national inclusif, que certains n'ont pas participé.
Mais c'est un représentant d'un parti politique également qui est à la tête du gouvernement.
En fait, le président de la transition, il est libre de nommer Antoine Sely qu'il veut à la tête du gouvernement. C'est son pouvoir, c'est son attribution. Et nous n'avons pas d'objection là-dessus, sauf que maintenant, celui qui vient à la tête du gouvernement, il doit savoir qu'il ne doit plus être partisan. Il est là pour l'ensemble du pays, il est là pour l'ensemble des Maliens, et il faudrait qu'on évite que ça soit, le cri de vainqueur. Parce qu'en ce moment-là, dans ce Mali-là aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Aujourd'hui, le Mali a besoin de tous ses enfants et nous devrons regarder dans la même direction. Et je pense qu'à ce niveau-là, les partis politiques sont, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes assez sincères, parce que nous avons dit, notre régime, c'est notre régime qui a été
On va revenir tout à l'heure aux recommandations, notamment celles faites par la Fondation Frédéric Sébert dans son rapport publié la semaine dernière. Mais parlant du rôle du gouvernement, parlons également du rôle des partis politiques. Est-ce qu'à ce stade, les partis politiques ont réellement commencé le rôle sur le terrain, notamment sensibiliser la population sur ce qu'elle doit faire par rapport à ces futures élections qui se préparent?
Mais bien sûr que oui, un parti politique est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais un parti qui ne le fait pas, il le prend à ses risques et périls.
Le RPM le fait.
En tout cas, le RPM le fait, et je pense que nous tenons nos instances au niveau et des sections et des sous-sections, et même au niveau des comités, malgré, en tout cas, l'existence de l'hivernage, qui rend un peu les choses un peu plus lentes, mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, nous tenons les réunions du Bureau politique national, les secrétariats permanents.
Ça, c'est avec vos membres,
mais bien
les
sûr,
Maliens de façon
mais
générale.
C'est là-bas que les choses sont conçues et qui sont consommées au niveau de la base.
Donc, à ce stade, vous êtes en train de concevoir.
Mais non. Au-delà de la conception, nous avons conçu des choses que nous sommes en train de disséminer au niveau de la base. C'est pourquoi je parle des conférences de section et des réunions de section. Et même au niveau des comités, on essaye en tout cas de galvaniser nos comités pour qu'ils puissent porter le bon message en tout cas, au niveau de nos militants.
Est-ce que vous pensez que la société civile, elle également, qui est constituée de nombreuses associations, joue également son rôle?
Oui, mais il faut faire la nuance. Il y a une société civile beaucoup politisée au Mali et il y a une autre société civile. Il y a deux catégories de société civile. Et je parle, en tout cas, la catégorie de société civile qui n'est pas politisée, à mon avis, joue pleinement son rôle. C'est d'ailleurs cette société civile qui était avec les partis politiques lors de l'atelier des 29 et 30 juin au CICB qui a eu à travailler, qui a eu à faire des recommandations. Donc ce n'est pas que les partis politiques ou la société civile ne jouent pas leur rôle. Mais on a l'impression qu'on a en face de nous entre le gouvernement qui est sourd entre différentes recommandations.
On va y devenir. Est-ce que vous avez constaté dans vos observations que les partis politiques étaient en train de jouer leur rôle par rapport à la sensibilisation des populations sur le terrain?
Nous avons vu qu'il y a des sensibilisations qui ont été faites à certains égards. Mais malheureusement, nous avons vu également que lors de nos observations, surtout ces derniers temps, qu'il y a des partis politiques qui avaient déjà commencé même, comme on appelle, les campagnes.
Il y a des partis politiques qui sont déjà en campagne électorale.
Nous pouvons le dire. Donc,
Est-ce normal?
Bon, nous ne sommes pas encore en période électorale. Dans la loi électorale, donc c'est proscrit.
Si on prend en compte la société civile de façon générale, M. Doumbia regrette qu'il y ait deux types de sociétés civiles au Mali, une politisée et une autre qui joue bien son rôle. Pourquoi cette division au sein de la société civile?
Raison pour laquelle, quand je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas sincères les uns envers les autres, c'est qu'à des moments donnés, au fait, il y a des organisations de la société civile, que ce soit même des partis politiques ou bien des fils de ce pays, qui essaient vraiment d'amener ce pays à un niveau supérieur. Mais malheureusement, nous oublions également les autres. Pas parce que ces autres ne veulent pas, mais c'est parce que nous n'avons pas la même vision. Et c'est ce qui nous différencie malheureusement, et nous n'arrivons pas à parler dans le même langage. Donc moi, personnellement, je pense qu'à ce niveau, il serait vraiment important pour nous, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les partis politiques, pour que nous puissions vraiment nous asseoir à un moment donné, réfléchir sur le mot de ce pays pour pouvoir avancer ensemble. Parce que comme vous l'avez dit dans les interventions, à chaque fois on s'assoit, nous faisons des réflexions. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment aller au-delà, mais ça, ce n'est pas de la vision des autres. Mais ce que M. Doumbia également a eu à le dire, il faut qu'à des moments donnés dans la vie, nous essayons de faire des compromis. Il n'est pas forcément dit que moi, j'ai une idée et que je ne partage pas forcément votre idée, que je suis meilleur ou bien que je suis contre vous. À des moments donnés, il faut faire des consensus pour pouvoir avancer ensemble. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui.
Il y a combien de types de partis politiques? Vous dites qu'il y a deux types de sociétés civiles. Au Mali, il y en a combien? Ils jouent bien le rôle? Tous.
Non, je ne dirais pas cela. Il faut être réaliste, il faut être sincère. C'est vrai qu'il y a des partis politiques qui n'existent que de nom, qui ne font aucune activité politique digne de ce nom. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes, en tout cas, ceux-là qui demandent à ce que la charte des partis politiques soit relue et qu'il y ait un meilleur contrôle et un meilleur suivi des partis politiques, pour que ce qui est leur rôle puisse, en tout cas, qu'ils puissent jouer ça de façon plus efficace. Parce que nous avons des partis politiques qui ne sont même pas en réalité créés pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais qui sont créés peut-être pour avoir des subventions de l'État et qui souvent vont mettre une liste quelque part pour dire qu'ils ont participé à des élections. Et ensuite, essayer de s'asseoir, en toi, attendre les subventions d'État. Nous avons dit, il faut aller au-delà de ça, il faut que le contrôle soit plus rigoureux. Le contrôle à ce niveau, ça se fait à partir de la charte de la loi portant charte des partis politiques. Et nous sommes, en tout cas, d'avis qu'il importe aujourd'hui, et qu'il est important qu'on puisse relire cette charte-là pour rendre le suivi plus rigoureux. Et même aller peut-être à des sanctions, parce qu'on a vu dans d'autres pays que quand vous existez à un certain niveau et que vous n'arrivez pas à avoir un certain nombre de conseillers ou un certain nombre d'élus pendant un certain temps, Bon, on peut peut-être sursoir à votre structure. Et je pense que toutes les réflexions, nous pensons que sont bonnes pour renforcer, en tout cas, la SAD des partis politiques, pour que les partis politiques puissent jouer efficacement leur rôle.
Parlons maintenant de recommandations. La Fondation Frédéric Hébert, dans son étude de rapport récent nommée « Défis et enjeux de la participation des acteurs non partisans au processus électoral au Mali » a fait des recommandations et nous allons écouter un résumé de ces recommandations avec notre porteur Khalifa Goïta.
Il s'agit notamment de stabiliser les règles du jeu électoral pour éviter les changements fréquents et opportunistes. La mise en place d'un comité consultatif interparti permanent avec la société civile est aussi proposée par l'organisation. Ce comité devrait faciliter le dialogue entre les partis et les organes de gestion des élections. Cela devrait éviter les reports électoraux et garantir la crédibilité de la démocratie, souligne le rapport. La Fondation Frédéric Hébert recommande également le renforcement de l'indépendance des organes de gestion des élections. L'institutionnalisation du dialogue politique est aussi mentionnée dans le document. Le rapport insiste sur la prise en compte de façon adéquate des réfugiés et déplacés maliens dans les processus électoraux. La Fondation dit être contre la sécurisation des élections par les groupes armés. Cette mission ne doit être assuré que par l'armée malienne soutient-elle. Ce rapport intervient à un moment où un doute fonde sur le respect du chronogramme électoral annoncé par les autorités de la transition. Ce programme prévoit la tenue de la prochaine élection présidentielle en février 2022.
Monsieur Traoré, que pensez-vous de ces recommandations de la Fondation Frédéric Hébert ?
Des recommandations pertinentes, que ce soit ce rapport ou bien l'évaluation de l'intégrité électorale au Mali qui a été faite par la Fondation AFS, ou bien beaucoup d'observateurs, que ce soit la COSEM ou d'autres organisations, nous voyons que pratiquement c'est les mêmes recommandations qui reviennent.
Sont-elles réalisables ?
Bon, c'est des recommandations qui sont réalisables dans la mesure où nous savons au jour d'aujourd'hui où sont les déplacés. Par exemple, si nous prenons le cas des déplacés, des personnes déplacées malheureusement qui ne sont pas prises en compte pour les élections depuis 2013, si je ne m'abuse, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des actions où nous les connaissons, nous les savons, nous pouvons les répertorier pour qu'on puisse faciliter également leur vote. Donc, ça, c'est un des exemples que nous donnons. Il y a également, comme on l'a dit, la sécurisation, parce que c'est vraiment important pour qu'ils puissent avoir une paix durable, pour qu'on puisse pas permettre à ceux que dans un même pays puissent avoir une sécurisation des forces armées et également d'autres groupes. Parce que ça va créer également des conflits à des moments donnés également. Parce que ça a donné même des suspicions, parce qu'on s'est dit que est-ce que ces personnes, nous avons vu qu'il y a des résultats qui ont été gonflés à certains niveaux. Donc les gens se sont même posé des questions sur la tenue même des élections dans ces localités à travers la sécurisation. Donc il y a ces aspects, je pense que ces recommandations sont vraiment pertinentes.
Il parle de stabilisation des règles du jeu électoral et de réhabilitation du caractère sacré du calendrier électoral à travers la mise en place d'un comité consultatif interparti permanent avec la société civile. Que pensez-vous de celle-ci ?
Je pense que c'est vraiment important dans la mesure où normalement il doit avoir ce comité. Moi je pense que ce comité doit être permanent comme ils l'ont eu à le dire parce qu'il y a un cadre de consultation parti politique et ministère de l'administration territoriale. Je pense que pour la société civile également, ça existait, mais je ne sais pas si c'était de façon formelle. Je pense que c'est vraiment important, opportun à ce moment précis de pouvoir mettre en place ce comité pour permettre à l'ensemble des acteurs qui ont commencé, qui sont dans le processus des jeux électoraux, de pouvoir s'asseoir, définir ensemble pour le reste du calendrier électoral qu'est-ce qui est tenable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Donc, pour pouvoir suivre ensemble.
Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de comités, trop de regroupements, trop d'organes ?
Bon, au jour d'aujourd'hui, nous savons déjà quelles sont les organisations qui évoluent dans ce système. Donc, ils sont répertoriés. Comme M. Doumbia l'a dit, il y a des organisations de la société civile, également des partis politiques qui ont été sélectionnés. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, mettre en place ce comité n'est peut-être que salutaire.
Votre position, votre regard sur ces différentes recommandations ?
Bon, des recommandations pertinentes qui existent déjà. Et je pense que le cadre de concertation des partis politiques et de la société civile avec le ministère de l'administration territoriale existe depuis belle lurette. Et elle a toujours fonctionné jusqu'à l'arrivée de Premier ministre Choguel Kokalamaïga à la primature. On ne sait pas pourquoi, mais je me dis que peut-être que les rôles n'étant pas bien définis au niveau du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale, en tout cas, se réserve de pouvoir mettre en toi, réanimer ce cadre-là, qui est un cadre éminemment important. Et aussi, l'indépendance des
organes de gestion des élections.
C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le travail que nous avions fait au mois de mai, lorsque nous avons renforcé, en tout cas, les attributions et les missions de la CENI, et leur donner beaucoup plus de moyens. Et beaucoup plus de pouvoir pour pouvoir être à équidistance avec l'administration territoriale. Donc à ce niveau-là, nous souscrivons entièrement à cette démarche-là. Et je pense que le dialogue, il est important parce que nous sommes aujourd'hui à 6 mois des élections, mais pas à 6 mois parce que nous sommes à 4 mois, parce qu'il faut convoquer le collège électoral au plus tard le 29 décembre.
Vous écartez déjà le référendum ?
Non, mais je vous ai dit que le référendum est quasiment impossible.
Qu'est-ce qui est possible ?
Ce qui est possible aujourd'hui, c'est de s'atteler à 2 élections majeures, c'est-à-dire les élections législatives et l'élection présidentielle. Et cela est faisable si le consensus prévalait, si ce n'est pas la volonté d'une personne qui prend le dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que nos gouvernants comprennent que, en tout cas, dans cette situation exceptionnelle que nous nous trouvons, c'est seul le consensus qui pourrait nous sortir en droit de cela. Parce que personne n'a une légitimité aujourd'hui. La légitimité qui vaille, c'est bien le consensus. Donc il faut aller à ce consensus-là, voir, c'est pourquoi nous avons proposé, nous avons des propositions, c'est-à-dire qu'il faut faire un calendrier réaliste, un calendrier réalisable aussi, un calendrier qui pourra en tout cas, mettre en exergue, en tout cas, pour qu'il pourra être mis en œuvre durant le reste de la transition.
Même si on se limitait à ces 2 élections, est-ce que vous pensez que les Maliens qui sont à l'intérieur du pays, y compris les déplacés, ainsi que les réfugiés qui sont à l'extérieur du pays et les Maliens de la diaspora, peuvent être pris en compte dans l'organisation et le déroulement de ces futures élections ?
Vous savez, quoi qu'on fasse, même si on se donne 5 ans, je ne pense pas que je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Je suis de ceux-là qui veulent vraiment que tout le monde y participe. Mais la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, c'est un processus un peu de moyenne à longue haleine. Donc, il y aura toujours, en tout cas, de certains qui ne pourront pas, en tout cas, exercer leur devoir constitutionnel. Mais, quand cela ne tienne, je pense qu'il faut faire en sorte que le maximum...
Est-ce normal que les règles, que les dispositions prises ne permettent pas à certains de pouvoir jouer, d'assumer leur devoir ?
Non, mais le gouvernement doit se donner tous les moyens. Aujourd'hui, le gouvernement doit se concentrer sur 2 actions majeures, c'est-à-dire la sécurisation et les élections. Et ce sont ces 2 actions majeures qui doivent couronner la fin de la transition. Et c'est la transition va être jugée sur la base des résultats obtenus par rapport à ces 2 axes-là.
Merci à vous. Monsieur Salia Kariba Traoré, quelles sont les propositions que vous faites par rapport à la tenue des élections ? Est-ce qu'il faut se limiter à 2 élections seulement, comme le propose Monsieur Doumbia, ou est-ce qu'on peut aller au-delà ?
Bon, c'est aux Maliens de décider. Comme ils l'ont dit, nous avons un chronogramme qui est là. Même si le chronogramme...
Donc l'observateur que vous êtes n'a pas d'avis sur cela.
Nous n'avons pas encore d'avis sur cela. Comme je l'ai dit, nous sommes des observateurs. Et à des moments opportuns, nous faisons des contributions. Et comme vous avez vu, nous avons fait beaucoup de contributions, notamment sur la mise en place de l'organe unique. Nous allons sortir également d'autres propositions.
Au cas où les élections ne se tenaient pas d'ici mars 2022 et qu'il faut aller à une prolongation de la transition, à quoi faut-il s'attendre selon vous ?
Cette fois-ci, il faut s'attendre vraiment à ce que tous les acteurs puissent être cautionnés vraiment. Donc que nous puissions aller vraiment au-delà des personnes et que nous puissions regarder le Mali.
Merci à nos invités. Le temps fait défaut. Salia Kariba Traoré de la Coalition pour l'Observation Citoyenne des Élections au Mali COSEM, Zouma Nanti Doumbia du parti RPM. À la régie vidéo et audio, Peting Diara et Nouhoum Djiré, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba.